Radio Capi, grand témoin. Bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Grand témoin, le plaisir de vous faire découvrir aujourd'hui le professeur David Lubo Yambele. Il est professeur à l'université de Kinshasa et président de l'association des professeurs de l'université de Kinshasa, APUKIN en sigle. Professeur David Lubo Yambele, bonjour.
Bonjour Madame Kéline Kouté.
C'est un plaisir de vous recevoir dans Grand Témoin aujourd'hui pour vous présenter, comme je l'ai dit, auprès des auditeurs qui nous suivent en ce moment partout en RDC et même à l'étranger grâce à notre site internet www.radiookapi.net. On parlera de votre parcours, de votre enfance, mais aussi de l'association des professeurs de l'université de Kinshasa. Qu'est-ce qui était à la base de la création même de cette association? On va en parler tout à l'heure dans cette émission, mais avant cela, on va faire un grand pas en arrière pour parler de votre enfance. Professeur David Lubo, dites-nous, vous êtes né où et quand?
Je suis né dans un village qu'on appelle Nkamia, avec trois localités. Le 28 décembre 1965, des territoires de Kabinda. D'abord, les secteurs de Lufubu Lomami, territoire de Kabinda, province actuelle de Lomami.
Et c'est là où vous avez passé toute votre enfance? Vous avez grandi?
Oui, je ne peux pas dire que j'ai passé toute l'enfance là-bas parce que j'ai fait l'école primaire. Les cycles d'orientation qu'on appelle les CO, je l'ai fait à Kifuenkese, c'est dans les secteurs de Basongue. Avec chef lieu Milela, territoire de Lubefu. Après cela, je vais aller au petit séminaire de Kabinda, comme j'avais ce qu'on appelait habituellement vocation de devenir prêtre, pour ne pas dire pape.
Vous rêviez de devenir pape un jour?
Oui, je pensais qu'il fallait avoir une aspiration assez visionnaire. Bon, j'ai terminé les études.
Et qu'est-ce qui vous a détourné de cette vocation, professeur David Lubo?
En tout cas, j'ai fait un pas vers les grands séminaires. Après mes études à l'Institut, parce que la sixième, je l'avais faite à l'Institut Lomami, qui était à l'époque dirigé par le préfet Poté Bondemi Amor.
Qui nous a quittés il y a quelque temps.
Oui.
Paix à son âme.
Et merci. Que l'Éternel lui accorde sa faveur. Alors, je suis allé au grand séminaire de Mbujimayi. On appelait Saint-François-Xavier, et je suis tombé malade, je suis rentré. J'ai enseigné à Kabinda, à l'institut qu'on appelle Esselele, et je suis allé à Chabana. Après, j'irai à l'université de Kisangani, où j'ai passé le premier cycle.
Mais vous dites que vous vouliez devenir prêtre, pourquoi vous avez changé d'avis?
Oui, vous savez, si ma mémoire est bonne, la prêtrise, donc les études au séminaire, obéissent à la règle des 3 S. Santé, science, sainteté. Il se fait que la santé a posé des problèmes. Et quand je suis rentré au diocèse, on m'a donné les années de réflexion et puis j'étais fatigué de réfléchir. Je pensais qu'il fallait faire autre chose. Et je suis allé à l'université de Kisangani. J'ai embrassé la sociologie et j'ai terminé les graduats. Et en première licence, ça coïncidait avec l'entrée de la FEDEL. On m'a chassé. Pas seulement
du. Quand vous a chassé?
Bon, ils ont trouvé que j'étais subversif et que je n'étais pas d'accord avec la FEDEL. Et à l'époque.
C'est l'université qui vous a chassé?
L'université m'a chassé. Et la ville aussi m'a chassé à travers l'ANER. Donc, j'étais devenu persona non grata. Et à l'époque, j'avais déjà mon épouse avec ma fille qui venait d'ailleurs de se marier il y a 3 semaines.
Vous étiez contre la FEDEL qui venait d'arriver? Bon, vous aviez un problème particulier?
Vous savez que nous qui étions de l'UDPS à cette époque-là, bon, lorsque Étienne Tshisekedi a eu des problèmes parce qu'il est monté au campus, et ça s'est répercuté partout. Tous ceux qui se réclamaient de l'UDPS ont été, à un moment donné, persécutés. Comme l'université devrait trouver une solution ou un alibi, un subterfuge, on a mis sur mon compte que j'aurais tabassé un étudiant. Et, bon, et puis, l'autre problème, c'est parce que en étant représentant des étudiants, on ne se mettait pas d'accord avec l'école professionnelle sur les frais d'études. Et ça aussi, il fallait vite étouffer cette révolution-là. Et je suis arrivé à Kinshasa, j'ai jamais oublié cette date-là, c'était le 29 juin 1997. Et les billets, tout, ça a été payé par l'ANER.
Donc, vous quittez l'université et la ville. Vous vous retrouvez à Kinshasa ou vous prenez l'inscription à l'université de Kinshasa?
Oui, j'ai commencé, j'ai trouvé beaucoup de collègues qui avaient fui la guerre et qui ne pouvaient plus rentrer à Kisangani. Et on a commencé notre première licence en sociologie à l'université de Kinshasa.
Vous êtes sociologue de formation, non?
Oui.
Pourquoi avoir choisi la sociologie?
Bon, vous savez.
Qu'est-ce qui vous a attiré?
J'aurais voulu faire le droit, les sciences po ou les relations internationales, mais j'ai opté pour la sociologie. Tout simplement parce que la sociologie n'a pas de limites. Elle étudie tous les problèmes de la société et propose des solutions. Je pensais que c'est la science des sciences. C'est la science carrefour. Il n'y a pas d'économiste ou de juriste, je ne sais pas, de communicologue ou quoi encore, qui ne se réfère pas à la sociologie. Et nous sommes des experts. Et ailleurs, on nous appelle les médecins de la société. Voilà pourquoi j'ai choisi la sociologie et je suis à l'aise. Je me trouve vraiment dans mon bain.
Vous avez grandi dans quelles conditions, professeur David Lobo?
Bon, les conditions assez moyennes, hein? Pas très modestes, pas aussi trop riches. Parce que déjà, j'ai retrouvé à l'internat au petit séminaire. C'est que ma famille n'était pas aussi parmi les damnés de la terre. Voilà ce que je peux dire. Nous sommes une famille de plus ou moins 9 enfants. Et je crois, à part la dame qui était décédée, tout le monde a étudié, du moins. Tout le monde a eu un diplôme d'État. Et les autres ont dépassé les caps. Ils sont à l'université, ils ont terminé. Donc on n'était pas aussi pauvres qu'on puisse le croire. Non, et on n'était pas aussi trop riches.
Quel est le souvenir que vous avez le plus marqué pendant votre jeunesse? Oui, vous êtes encore jeune, on est jeune jusqu'à 77 ans, je dirais pendant votre enfance.
Ça me fait rire parce qu'il y a beaucoup de souvenirs, mais le plus grand souvenir, c'est l'obtention de mon diplôme d'État. Parce que là, nous étions, je crois, à 8 dans mon village, et cette fois-là, j'avais réussi seul en littéraire. Et mon père a tiré les coups de fusil en l'air, et tout ça, et les coups de canon, et puis on a dansé, et c'est une nouvelle vie qui avait commencé. Je crois que tous les restes là, bon, de bons souvenirs, on en a partout. Mais parce qu'à notre époque, les néants aux examens d'État, il y en avait des milliers. Et alors quand vous êtes cité, quand on lit les journaux et qu'on vous dit que vous avez réussi, c'était une occasion de jubilation assez justifiée. Voilà.
Alors, vous êtes sociologue. La sociologie, c'est la science qui étudie l'effet de société, la société. On va parler un peu du peuple songhai. On dit que c'est un peuple qui est très attaché aux fétiches, professeur.
Les fétiches,
c'est vrai ou faux?
Les fétiches, je n'en connais pas, parce que moi-même, je suis baptisé depuis ma naissance hein, par le père, comment ça s'appelle encore, Gustave Ansens. Et alors, nous avons grandi dans cette éducation catholique. S'il y a des fétiches, je vous donne un exemple. Peut-être dans un village de 100, 200 personnes, vous trouvez une personne qui s'attache aux fétiches. Mais chaque dimanche, vous voyez, les gens, c'est les protestants, les gens, c'est les catholiques. Je crois que nous sommes assez chrétiens. Mais les fétiches, comme culture, je ne peux pas en douter, ça existe.
Comme culture?
Oui, ça existe. C'est parce que dès que vous, dès la naissance, avant d'ailleurs, notre ère, bon, il y avait les rites d'initiation qu'on appelait les bukishi. Et là, on apprenait beaucoup de choses. On apprenait la vie en société. On vous interdisait de voler. On vous interdisait de tricher. On vous interdisait de prendre la forme d'autrui. Donc, en fait, ce que les bukishi donnaient comme leçon morale, c'est ce que les blancs ont amené comme du commandement de Dieu. Et chez nous, il y a cette dichotomie-là. Celui qui se comporte mal, il ressemble à ce qu'on appelle kafungulu. Kafungulu, c'est quelqu'un qui n'est pas initié. Et celui qui se comporte bien, qui suit les valeurs de la société, on l'appelle Nganga Mulange. Donc, moi, je pense que je suis parmi les Nganga Balange. Oui.
Vous avez cette facilité-là. Je ne parle pas de vous, je parle de la culture songhai. Vous avez cette facilité-là de faire disparaître les gens.
Bon, il semble que c'est aussi scientifique.
Scientifique?
Oui, l'ubiquité, ça existe. Prenez l'amibe, comment elle se reproduit? C'est par disparité. Hein? L'amibe se divise en deux parties égales. Sur le plan scientifique, comment les papillons assez légers deviennent chenilles? C'est la métamorphose. Alors ça peut se produire chez les hommes. Vous avez l'ose, on vous dit, homme croco. Et chez nous, quelqu'un peut disparaître. Et c'est aussi scientifique, comme je l'ai dit. Mais ça n'obéit pas aux mêmes règles que le cartésianisme. C'est ça la différence. Le cartésianisme, c'est la preuve, c'est l'observation, c'est l'expérimentation. Mais là-bas, c'est les constats. Il y a au-delà du cartésianisme d'autres connaissances dont l'accès nécessite une certaine initiation.
Voilà. Professeur David Loubeau, c'était quoi la musique qui cartonnait à votre époque lorsque vous aviez vos 17 ans, 18 ans?
D'abord, nous avons connu une époque où on chantait à l'église en Tiluba. Et il y avait un petit bouquin qu'on appelait Tendai Mulopu. Là, on chantait aussi, c'était bien. Mais avec l'inculturation du message du Christ, on a commencé à chanter en langue à l'église. Et il y avait aussi des orchestres folkloriques. Nous grandissions à ce moment-là avec les Nkombe, les Madimba, tout ça. Personnellement, jusqu'à aujourd'hui, j'adhère ma musique. J'adhère la musique song.
Vous adorez le folklore song?
Oui, sauf que je ne sais pas danser.
Mais vous savez chanter quand même.
Oui, je n'ai pas une très belle voix, mais je chante quand même.
On va essayer de vous faire plaisir. Vous avez une chanson particulière que vous aimez écouter?
Eh bon, n'importe quoi, mais s'il y a l'Oendo de Lusombe, ça m'arrange.
On va demander à la technique de nous balancer la chanson Luendo pour votre grand plaisir.
Merci beaucoup.
Et ça vous rappelle des choses?
Ça me rappelle quand on parle par exemple de l'ingénieur qui chasse sa mère et sa petite sœur. Ça fait pleurer. Maintenant, ça a pris du temps, mais quand ça a commencé, les gens pleuraient. Votre père vous fait étudier, la maman s'est promenée presque nue pour que vous étudiez, les papas avec des pantalons déchiquetés, vos sœurs n'ont pas étudié parce qu'il fallait privilégier les grands frères. Et vous terminez, on vous suit, vous les chassez, et ils dorment même les sols en dehors de votre parcelle. Je crois que c'est interpellateur. Et la Bible dit « Honore ton père et ta mère ». Afin de vivre longtemps.
Luendo, pour votre plaisir, comme je l'ai dit. Puis on se retrouve juste après pour la suite de notre entretien.
Nami tete motumpe kilongo kimwad. Mwana kiomba dibwe. Nadaba kule kimange fila dimbi nganga nganga shakumu dimba. Yayo.
Balume bako la buona se fulu manu lemba.
Moi, le plaisir de vous faire découvrir aujourd'hui le professeur David Lubo Yambele. Il est professeur à l'Université de Kinshasa et président de l'Association des professeurs de l'Université de Kinshasa. Professeur, parlons de votre expérience professionnelle. Je sais que vous avez passé presque toute votre carrière professionnelle dans l'enseignement.
Toute la carrière, non. J'étais quand même bourgmestre de Lemba de 2008. À 2012.
Oui, mais vous avez commencé dans l'enseignement.
Oui, j'étais chef de travaux et j'ai défendu ma thèse à la même période.
Avant d'aller à l'université de Kinshasa, vous avez donné cours aux humanités.
J'ai donné cours aux humanités à Chabana, à Kabinda, à Eselele. Et ici, j'ai donné cours à l'Institut Mukoko, à Ngilima, à Matete. Et j'ai donné cours à Bongolo, non loin de l'Institut d'affaires de l'Université Kimbanguiste. Mm-hmm. Et j'ai quitté quand j'étais devenu directeur des études à l'Institut social de Kimbanguiste.
Vous avez quitté pour,
autre
chose.
J'ai devenu entre-temps membre.
Une nouvelle expérience.
J'ai devenu entre-temps membre du cabinet du vice-gouverneur chargé des finances, le professeur actuel Mbelou, Hervé Biocha, qui est l'administrateur général de l'ANER. Donc je ne pouvais pas cumuler, même si l'expérience là-bas n'a pas été concluante, parce que vite j'ai repris mes études et tout ça.
Vous avez repris à l'université de Kinshasa?
Oui, reprendre les études, mes recherches alors.
Okay.
Parce que là j'étais assistant, chef de travaux, et j'ai cumulé parce qu'il fallait vivre. Bon, à un moment donné, je me suis concentré pour faire mon DES et finalement ma thèse, que je présenté le 19 mars 2011. Et bon, le jury a estimé que j'avais obtenu une plus grande distinction. Il faut chiffrer, il ne faut pas que ça vous effraie. J'ai terminé ma thèse avec 93,5%.
Non, sérieux, donc, professeur. 93?
Oui. 93,5 pour parler le français.
Ah bon?
Oui.
Eh bien, félicitations, vous professeur.
Allez, vous le vérifiez, si je me trompe à cette émission, vous verrez si on m'avait mal coté, ou m'avait favorisé ou pas. Et dans tout ce que je fais, je ne veux pas à ce que mes professeurs, mes membres du jury, soient des menteurs, non.
Vous avez été aussi bourgmestre de la commune de Lemba.
Oui, vous savez que la politique nous suit partout. J'ai été nommé et... J'ai fait presque 5 ans, disons 4 ans et quelques mois. Et je pense, c'est de l'expérience de la vie. Je crois que ceux qui m'ont vu à l'œuvre.
C'était une belle expérience pour vous?
Oui.
De l'enseignement à la gestion de la chose publique. Vous étiez toujours? Vous avez cumulé les deux?
Oui, j'ai eu par exemple dans mon parcours en tant qu'étudiant un cours qu'on appelait l'administration des villes. Mais il fallait mettre les théories en pratique. Je crois que quand j'arrive à la commune de Lemba, à la maison communale, tout le monde sort pour venir m'embrasser. Et il paraît que beaucoup disent que j'étais le meilleur bourgmestre. Et ça, vous pouvez le vérifier.
Les flatteurs qui vous ont dit ça, on l'a vérifié. Beaucoup nous ont dit aussi que c'était pas très fameux, quoi. Votre bilan n'était pas très fameux à la tête de la commune de Lemba.
Vous voulez que je fasse le bilan? Je vous dis que j'étais le premier à acheter un ordinateur à Lemba. J'étais le premier bourgmestre et l'unique à avoir fléchi la Monisco, qui n'a pas de contrat avec les entités décentralisées. Mais la Monisco a financé Lemba. Avec les ordinateurs, les groupes électrogènes, beaucoup de choses. Je suis le seul, peut-être au pays, à avoir monté un projet bancable et convaincre la Monisco, la MONUC à l'époque. Et je crois que l'inauguration a été faite par les représentants pays du PNUD. Dans un des deux. Bon, regardez, bah, il passe. Avant mon arrivée, on ne pouvait pas respirer. C'était des épaves partout, en face du camp Kabila, tout ça. Là, j'apprécie le professeur Biéye. Qui s'occupait de l'environnement. Et Madame Olenga, nous avons dégagé toutes ces épaves-là, et moi-même, j'ai pris un camion pour... Bon, voilà. Je pense que si la commune est propre jusqu'à ce jour, c'est aussi notre
touche. C'est aussi grâce à vous.
Oui. Oui, et après moi, je crois que les bourgmestres, parce qu'il faut le dire, il faut dire la vérité, les bourgmestres légaux, c'est celui qu'on a nommé. Parce que les deux avant moi, c'est des petites notes qui les nommaient, et c'était même ridicule. Voilà comment fonctionne l'administration. Et j'en profite pour plaider pour ces corps-là. Les bourgmestres n'ont ni salaire, ni prime. Mais on attend quoi d'eux? L'administrateur du territoire n'a pas de salaire. Les bourgmestres n'ont pas de salaire. Les maires de la ville n'ont pas de salaire. Si je demande à ceux qui gèrent, vous voyez les gens nommés sur ordonnance présidentielle, sans salaire. Ça, c'est quand même humilier même celui qui a signé. Parce qu'on ne peut pas prendre quelqu'un et le mettre là où il ne sera pas payé. Donc, je pense que je fais un plaidoyer pour eux. Ils travaillent dur et ils méritent. Comme leur donne les matricules de l'administration publique. S'il faut payer 300, 400 000 francs congolais par mois. Mais c'est ça. Est-ce que les autorités savent que les bourgmestres et les administrateurs n'ont pas de salaire? Les entités déconcentrées, les entités décentralisées, sans salaire.
Les bourgmestres n'ont pas de salaire, vous dites, professeur?
Je vous l'ai dit sincèrement. Ils vivent de la rétrocession. À notre époque, ça venait une fois peut-être tous les 6 mois. Et si j'ai quitté la commune, c'est pour avoir revendiqué.
Ils ont quand même des frais de fonctionnement.
Je vous dis que les frais de fonctionnement, d'abord, quand on vous donne la rétrocession, moi, je l'ai dit, parce que ça m'a coûté mon poste. On m'a envoyé 4 millions de francs congolais. Dans les 4 millions, on vous dit 50 c'est pour l'assainissement, 30 c'est pour le projet impact visible. Ce n'est pas une moquerie, ça. Et 20 pour le fonctionnement. Et ça vous arrive d'une manière horoscopique. Je l'ai dit. Prenez les 10,005 du gouvernement provincial de la ville de Kinshasa. Mais les communes sont dépossédées de tout. Qu'est-ce qu'on laisse? On laisse à la commune comme Lemba, dans cette idée-là, pour toutes les communes, taxes sur pirogue. C'est pas s'amuser avec les gens comme ça. On vous laisse taxes sur l'élagation des arbres, taxes sur les bêtes prises en divagation. Non, on doit cesser de blaguer avec des gens comme ça. Ils sont là, ils me suivent. Si l'édit-là n'est pas modifié, toutes les taxes qui peuvent ramener quelque chose à la commune, ont été ramenés à l'hôtel de ville. Hein? Urbanisme, même les loyers, tout ça. Aujourd'hui, il faut aller payer à l'hôtel de ville. Non, on ne peut pas avoir... C'est vrai que l'hôtel de ville n'a pas de terrain. Les terrains, l'espace, ce sont les communes. Mais les bourgmestres doivent vivre.
Radio Capi, grand témoin.
Professeur David Louboyambélé, parlons de l'enseignement en RDC. Aujourd'hui, on critique beaucoup le niveau de l'éducation et de l'enseignement en RDC. Il y a plusieurs études qui ont démontré que chaque année, des millions d'enfants et de jeunes quittent l'école sans qualification. Comment on peut expliquer cela?
Oui, vous m'avez présenté, ou je me suis présenté comme un sociologue. Les faits sociaux sont totaux globaux. C'est une règle. Et donc, lorsqu'il y a une crise au niveau national, au niveau de la nation, ça se répercute dans tous les secteurs. Donc, c'est la totalité. Je crois que par rapport au niveau, il faut se voir dans cette règle-là. Il faut commencer par les primaires. Vous savez, madame, je peux vous dire que selon mes investigations, il n'y a plus un cours de grammaire systématique à l'université. Alors, si vous n'avez pas été formé au primaire ou au secondaire, ce n'est pas l'université que vous allez apprendre la grammaire. J'ai vu un monsieur venir me demander un appui. Il était en deuxième graduat. J'ai demandé, le montant qu'il demandait était assez dérisoire. J'ai dit, mais où sont tes parents? Il m'a répondu qu'ils sont tous mourus. Papa mourit avant, maman mourit après. Il est en deuxième graduat, mais j'en fais quoi? Et ne parlons pas de l'emploi de l'é ou lui. C'est facile quand même un professeur, un docteur qui vous dit, il faut lui appeler. Ça aussi, il faut apprendre à l'université. J'ai parlé de mi amour. Si vous m'avez appris les compléments du présentatif que je ne connaissais pas. Voici madame Nkouté. Et il demande quelle est la fonction de madame. Nous tous on échoue. Il dit c'est les compléments du présentatif. Voilà comment on a été formé. Voilà. Ce n'est pas l'université que nous sommes formés. Parce que l'université n'écrit plus au tableau. On vous dit. Et la suite de votre formation fera que vous preniez bonne note ou mauvaise note si vous dites. Donc, le niveau est lié à la crise économique, à la crise sociale, à la crise sociale. Et bon, il faut aussi voir les enseignants, ils vivent dans quelles conditions? Depuis l'école primaire. Nous, moi je suis fils d'un enseignant, nous étions des messieurs. Celui qui a attrapé les poissons, les vendait, c'est l'enseignant. Celui qui a attrapé, c'est pas quel gibier, c'est l'enseignant. Et les premiers vélos, les voyez, c'est l'enseignant. La mobilette, je l'ai vu, c'est les enseignants.
C'est plus le cas aujourd'hui.
Ah, c'est plus le cas aujourd'hui, ce sont les damnés de la terre. Bon, ce sont des négligés du monde. Que voulez-vous qu'on donne? Une poule ne donne que ce qu'elle a. Hein? Les enseignants qui sont obligés pour compléter leur vie, par exemple, dans le milieu rural, les soirs ils font au champ. Les soirs ils ont des chiens pour aller chasser parce qu'ils ne peuvent plus acheter comme nos parents achetaient avec les revenus de l'enseignement.
Mais puisqu'il y a ce problème-là qui se pose, professeur, surtout au niveau universitaire, comment on peut voler au secours de l'enseignement, surtout supérieur et universitaire, professeur?
Oui, je crois que moi, j'avais fait un projet qui a été reçu à la présidence de la République actuelle. Et je crois que ce projet-là, il a été reçu, vous le voyez ici, le 11 mars 2019. Et là, j'ai parlé aussi, le projet de développement de la RDC par les voies de communication, l'agriculture, ainsi que la contribution et les défis de l'enseignement supérieur universitaire. Il y a toute une contribution. Et bon, j'ai parlé de l'agriculture, j'ai parlé des voies de communication. Et je pense que les voies de communication, j'ai insisté sur l'unification du Congo à travers la route. Et l'agriculture, j'ai commencé les 145 territoires, l'étude ici. Alors que ça n'était pas encore dans la tête des gouvernants. Parce que si j'ai proposé qu'on devait donner à chaque territoire un tracteur par secteur. Donc j'étais déjà dans les 145 territoires. Alors bon, comme les 145 sont venus après, mais ainsi c'est sur les infrastructures, je crois qu'il faut un autre projet sur l'agriculture. Et moi je l'ai fait, et sans rien demander, c'était seulement 13 pages. Au moins la présidence, on a accusé réception, le 11 mars 2019. Mais je n'ai pas de feedback. Donc, et là, je propose ce qu'il faut faire. Bon, je crois que la première chose, c'est lutter contre la précarité des enseignants, du primaire au secondaire. La deuxième chose, c'est les suivis. Les suivis, on enseigne quoi? Et je crois, la troisième chose, j'ai dit, il faut une motivation. L'université a trois missions, l'enseignement, la recherche et les services à la nation. Mais est-ce qu'on est utilisé pour le service à la nation? Non. Moi, je vous ai dit ici, j'ai écrit, mais qui m'a déjà appelé pour que j'explique ce que j'ai écrit. Bon, deuxièmement, je suis sociologue, et particulièrement sociologue des conflits. Je m'occupe de la société du développement, je m'occupe de la société des conflits, et la société du travail. Mais il y a beaucoup de conflits. J'ai déjà écrit beaucoup sur les conflits. Et s'il faut que je rappelle ce que Julien Frendan dit, il dit que les conflits est le phénomène le plus important de la société, mais malheureusement, les sociologues n'en font pas l'usage. Or, toute société est minée par toutes sortes de conflits. Or, la société contemporaine est minée par toutes sortes de conflits, après qu'on la qualifierait de société conflictuelle. Mais on a parlé de Komout, on a parlé de tous les conflits à l'Est, les Pygmées et tout ça. Mais qui a déjà consulté un sociologue de conflits? Les Pygmées, les Bantous s'entretuent. Qui a déjà consulté un anthropologue, un sociologue pour une étude approfondie? Ici, à Komout, Bayaka et...
Le Komti, Yaka et Teke.
Teke. Mais nous sommes... Ça étonne quand même. Comment on paye l'université, même si c'est mal payé, mais vous ne pouvez pas utiliser cette université pour résoudre les problèmes de la société. Oui. Je vais tout de suite vous parler de notre colloque. Non, l'université de Kinshasa, c'est quand même une institution assez savante. Nous avons fait un colloque de 3 jours, du 20 au 22 juin 2022. Recommandations issues du colloque tenu, tout ça, sur les conflits armés récurrents à l'est du pays. Mais qui nous a demandé même ces recommandations?
Vous avez fait des propositions.
Les propositions, d'abord, vous avez ici recommandations. Ce sont des recommandations publiques. Et ici, vous avez recommandations secrètes. Mais qu'est-ce que nous n'avons pas fait? Donc, nous sommes en juin. Bounagana n'était pas encore tombé, madame. Nous avons destiné ces recommandations à tous les dirigeants.
Mais il n'y a pas eu de feedback.
Est-ce que d'abord, il y en a déjà eu? Combien lisent? Parce qu'il est écrit que, il est dit que si vous voulez cacher une information en noir, mettez-la par écrit. Une université met 3 jours pour réfléchir sur la situation des conflits à l'est du pays. Parce que nous pensons que nous devrions, pour nous, l'État que nous sommes à la Pukine, rompre la rupture, couper les murs de séparation entre l'université et la société. L'université est là pour la société. Ici, je cite un de mes grands maîtres, le professeur Mouabila Clément Malela, qui a dit il faut une société qui dialogue avec la société. Enfin, une université qui dialogue avec la société.
Avec la société. Professeur, que pensez-vous du système LMD introduit dans l'enseignement universitaire en RDC?
Bon, je pense d'abord, pour parler d'enseignement, avant d'arriver au LMD, nous sommes situés dans une perspective calculatrice. Nous ne restons plus dans la perspective méditative. Il y a, par exemple, la circulaire 024. Ici, je voudrais d'abord saluer les ministres de l'enseignement supérieur universitaire, son Excellence Moïse Nzangi, pour ses efforts. Mais dans cette circulaire, je pense que le ministre n'a peut-être pas fait attention à certains détails. Je prends la page 60, il y en a deux. Je pense que vous m'accordez le temps. Qu'est-ce qu'on appelle l'argent qui doit quitter l'université pour aller dans d'autres institutions, qu'on appelle quotité? Ces quotités-là, je l'ai dit, et le ministre m'entend, parce que nous sommes dans une perspective où nous devons quand même corriger certaines choses. Ces quotités prennent $200 sur les 300 qu'on demande à l'étudiant de premier graduat. Alors, l'étudiant de deuxième graduat doit les promotions montantes qui payent moins de $300. Ça signifie quoi? Il reste $100 pour les paiements de l'université, son fonctionnement. Même s'il faut être les yeux fermés. Vous demandez $300 et les $200 vont ailleurs. C'est ça? Non, disons que l'État, ce système de contribution des parents a été instauré parce que l'État était en faillite. Mais comment l'État qui est en faillite va aller dans les organisations informelles pour tirer tous les profits? Donc, pour éviter des grèves, ça c'est ce que nous appelons en latin casus belli. Qu'est-ce qu'il faut faire? 3 choses. La première, qui est conflictuelle, c'est d'aller au Conseil d'État pour s'attaquer à cette circulaire. Ça, nous disons, quand le dialogue est ouvert, on n'arrive pas à des choses comme ça. La deuxième qui fâche, c'est qu'au lieu de $100, qu'on augmente les frais d'études, par exemple à $500, comme ça il restera 300 pour payer les 10 mois de l'année. Ce que les étudiants n'accepteront pas, c'est que les parents n'ont pas. Et le reste, la troisième stratégie, c'est dialoguer avec la tutelle, c'est-à-dire les spécialistes des finances publiques dans nos universités, les syndicats, les associations et les ministres avec ces services.
Là, vous parlez en tant que professeur ou président
de la Pugine. Non, je l'ai dit parce que c'est nous, c'est la Pugine qui doit défendre ça. Les associations et les syndicats. À deux qualités, parce que quand on me paye moi aussi. D'abord, comme professeur, j'ai dit des choses vraies, c'est-à-dire avec 100 dollars qui vont rester, ça, on va fonctionner pendant 2 mois.
Professeur Loubo, peut-on revenir au système LMD? Qu'est-ce que vous en pensez?
Bon, j'ai été moi-même acteur. J'étais à l'Oumbashi aux États généraux. Et j'avais posé la question au professeur Kaboulé. Pourquoi on devrait adopter l'LMD quand le Maroc, l'Algérie, la Tunisie les quittaient? Vous connaissez la réponse? Non, ils n'ont pas quitté, ils ont seulement levé D pour mettre B. Ça, c'est Kaboulé, il m'entend. C'est lui qui est venu du Canada comme expert. Il m'a dit non, chez eux, ce n'est plus l'LMD, c'est le LMB. Bon, je ne sais pas faire la différence. Pour revenir à ça, l'LMD l'avons adopté à Lubumbashi, aux États généraux. Mais les États généraux, leur recommandation numéro 45, dit aussi que les professeurs doivent être payés comme les ministres. Pourquoi nous a-t-on précipité seulement sur une recommandation sur autant? Alors, pour revenir à la question, l'LMD n'est pas un mauvais système. C'est un bon système, mais c'est mon point de vue. Il a été peut-être assez précipité. Pas d'infrastructure. Et puis, vous savez quand même, d'autres pays, le problème que nous avons dans ces pays, c'est de ne pas savoir ce que les prédécesseurs ont fait. Et ça, nous faisons fi. Moi, je pense qu'il faut quand même une culture de souvenirs. Lorsqu'on impose les LMD, mais il y avait déjà les facultés comme l'agronomie et comme le département de biologie à la faculté des sciences, qui étaient déjà sur les systèmes, mais on devrait évaluer après 2 ans. Donc, c'est-à-dire une bonne chose de commencer avec quelques facultés expérimentales et on évalue. Mais l'évaluation n'a jamais eu lieu. Je peux vous dire une chose, madame. Sociologue de formation, premier gradé en sociologie, 33 matières, là où on en avait 14. Et quand je vous parle ici, on n'a jamais terminé. 33 matières. Papa, on forme les magnétophones. Soyez quand même honnête, non? J'ai les plus grands cours là-bas qu'on appelle les systématiques des théories sociologiques. Alors, quand on me dit que non, il faut faire seulement 20 heures dans les théories, et je crois, non, je pense qu'il faut repenser ce système. Je prends un exemple de ça, 33, 34 matières. Pourquoi ne pas dire, bon, comme c'est 33, au lieu de 3 ans, mettons 4. Comme ça, on peut prendre 16 en première année et peut-être 17 autres dans une autre année. Je crois que nous devons inculturer la science. Nous ne pouvons pas prendre les réformes alambiquées. Non, ce n'est pas parce qu'ailleurs on fait 3 ans que... Non, d'abord, vous avez venu de soulever un fait réel. Les niveaux abaissés. Madame Kouté, avec beaucoup de considération envers nos autorités. Mais si... Celui qui fait la licence pendant 5 ans est incapable d'écrire son nom. Seulement celui qui la fera pendant 3 ans. Mais remettons-nous en cause, nous. Ne cherchons pas à satisfaire les étrangers, ils ont financé. Non, notre niveau est trop bas. Moi, je voulais même ajouter une 6e année.
Enseignantes et enseignants de tous ordres, que tu sois du primaire, du secondaire ou du supérieur, tu es la clé de tout développement. Où que tu sois, tu es à l'honneur. Je te respecte. Sois fier de toi et que Dieu te bénisse. Amen. Enseignant, toi qui transmets le savoir tous ces innocents, et tu as fait de l'éducation ton métier d'adoption. Enseignant, sois fier de toi, et tu enseignes et tu éduques les futures générations. Enseignant, tu es à l'honneur, oh, artisan de l'âme.
Merci enseignant.
Forgeron de l'esprit.
Que Dieu vous bénisse.
Combattant de l'ignorance, qui relève tous les défis, oh. Miroir de la société, le flambeau qui illumine l'humanité. De tes lettres et de tes chiffres, tu formes les intellectuels, tu fais de tous ces innocents les citoyens modernes. Enseigner
n'est pas facile, oh.
Cela demande
beaucoup de sacrifices.
Et surtout quand on tient dans ses mains l'avenir de ces êtres fétiches. Il faut de la rigueur, de l'abnégation et du dévouement. À tous les enseignants tombés lors de cette bataille et partis très tôt, à jamais dans nos cœurs. Enseignant, tu es la cheville ouvrière, le bâtisseur de la nation et médecin, magistrat, architecte, ingénieur, personnalité illustre ou éminente, chercheur et décideur, tous sont passés par toi. Enseignant, sois fier de toi et l'enseignant, cet employé, parfois injurié, violenté, marginalisé. Mais qui pour sa société est prêt à se sacrifier, enseignant, sois fier de toi et du souffle pour ton salaire que tu as pourtant bien mérité, enseignant, sois fier de toi, oh. Toujours dans les recherches,
merci, enseignant.
La conception et la projection,
que Dieu vous bénisse.
À la quête perpétuelle de savoir à dispenser, enseignant, sois fier de toi et la préparation de fiches, de cours ou d'enseignement, enseignant, tu es à l'honneur. La correction des devoirs,
merci, enseignant.
Tu n'as pas de vie privée.
Que Dieu vous bénisse.
Très tôt, tu te lèves, très tard, tu te couches, enseignant, je vous respecte. Il faut que des voix s'élèvent pour la valorisation de la fonction enseignante. Restaurer l'image de l'enseignant, car il mérite plus que le respect et la considération. Il faut aussi assurer la protection de l'enseignant contre tous ses ennemis de la nation. Merci à tous ces acteurs, à tous ces syndicats qui se battent comme un vaillant guerrier afin d'offrir aux enseignants des meilleures conditions de vie et de travail. Bonne fête à toi l'enseignant. Et que Dieu te bénisse. Enseigner
n'est pas facile.
Cela demande
beaucoup de sacrifices.
Hommage à l'enseignant.
Merci enseignant.
C'est l'enseignant qui est célébré.
Que Dieu vous bénisse.
À tous les enseignants d'ici
merci
et d'ailleurs, du moyen Okoué, en particulier de la Banga Vigné. À tous les
merci
enseignants
enseignant.
Du Gabon, d'Afrique et du monde entier. Soyez célébrés.
Professeur David Lubo, c'est depuis janvier 2022 que vous êtes à la tête de l'association des professeurs de l'université de Kinshasa. Qu'est-ce qui avait milité à la création de cette association?
Oui, vous savez que l'union fait la force. L'association de l'université de Kinshasa est née vers les années 91, suite à une série d'impayements. Hein? Comme nous disons, nous, avec un professeur congolais qui est bien connu, professeur Bongeli, la théorie de la crise inspiratrice. Et il y a Gaston Boutoul qui vous dit que les progrès les plus importants accomplis par les sciences sociales l'ont été soit à la période de crise, soit à propos d'une crise, lorsque les solutions dépassent hein, les méthodes accoutumées. Je vais m'arrêter là. Suite à cette crise, on a créé une association. Et je peux vous dire, parce que les gens ne le savent pas, à cette période, les professeurs consciencieux qui étaient là avaient refusé $50 que l'État payait. Du non, bon, vous, l'État, vous avez beaucoup de dépenses. Reprenez vos $50. Et c'est à ce moment-là que là, pour redynamiser, pour un combat commun, on a créé une association. Et je pense que la première, ceux qui crient là, ils ne font que copier la pucine. En tout et pour tout. Hein? Alors, les objectifs sont connus. C'est d'abord l'amélioration des conditions de vie et de travail du professeur d'université. Hein? C'est aussi créer une solidarité entre nous. C'est aussi offrir le consulting à l'État congolais. Notre expertise dans les différents domaines de la vie. Et Je crois que je me suis résumé. Hein? Contribuer au développement du pays, donner son point de vue quand il le faut, comme je l'ai dit ici pour les conflits. L'université, je peux vous dire que parmi les recommandations secrètes, parce que je vous les montre, je ne parle pas en vain. Mais nous avons même demandé, je vais dévoiler, nous avons demandé au chef de l'État de recevoir nos chimistes, nos physiciens, nos polytechniciens, à travers la Pucune, bien sûr. Mais vous savez, hein, de cette rencontre-là, qu'est-ce qui pouvait sortir? Sociologues, chimistes, physiciens, polytechniciens et chefs de l'État avec ses services spécialisés. Non, il faut qu'on lise. Les gens ont beaucoup de soucis pour que ce pays marche. Et parmi les gens qui ont ces soucis, il y a les professeurs d'université. Voilà pourquoi nous avons organisé ce colloque-là. Et je vais saluer le conseil spécial du chef de l'État qui nous a appuyé. C'est probablement l'unique qui nous a appuyé financièrement. Il faut le dire. Hein, il ne faut pas attendre la mort de quelqu'un pour venir faire le témoignage.
Aujourd'hui, vous êtes à la tête de cette association. Le combat pour vous, c'est toujours l'amélioration des conditions de travail, de vie des professeurs. C'est le même combat mené même par vos prédécesseurs. Est-ce que vous pensez qu'il y a quand même un changement?
Je pense que l'université ne s'arrête pas seulement à l'amélioration des conditions de vie. Je viens de vous montrer...
Vie et travail,
oui, je viens de vous montrer les colloques. Ce n'est pas l'amélioration des conditions de vie. L'université est là pour penser, réfléchir et proposer des solutions.
Si vous n'êtes pas mis dans des conditions, les bonnes conditions, vous n'allez pas bien réfléchir.
Très bien. Parce que vous parlez des conditions, nous avons déjà perdu 23 professeurs pendant que je suis là. Et c'est quand même, ça laisse les larmes couler. Mais ils meurent pour la plupart. Il y en a qui meurent de la vieillesse. C'est qui est normal. Mais beaucoup meurent par manque de soins médicaux. Il y en a. Maintenant, là, nous gérons deux cas. Des gens qui peuvent mourir pour 3 000, 4 000 dollars. Donc, notre combat pour l'amélioration des conditions de vie ne s'arrête pas. Mais nous nous disons que l'université n'a pas que de droits, l'université a aussi des devoirs.
Des devoirs.
Voilà pourquoi nous apprécions tout ce qui se fait à l'université. Aujourd'hui, par exemple, quand nous parlons des conditions de travail, vous savez que l'ANAC à l'UNIKIN, c'est pas un secret, n'est pas terminée. Mais pourquoi? Là où moi, j'ai étudié de lundi à samedi, de 8h à 18h. Aujourd'hui, nos étudiants actuels arrivent au cours 2-3 fois par semaine parce que les auditoires sont alternatifs. Mais qu'est-ce qui va porter ce ton-là, cette voix-là, si on n'est pas là? Depuis que je suis là, je n'ai pas vu un auditoire construit à l'université de Kinshasa. Ça signifie que cette situation va perdurer. Et il faut encore rire. Parce que parfois, vous arrivez là-bas, avec un petit retard, vous trouvez que non, c'est les collègues tels qui occupent une autre promotion. Et cette séance se passe. Ce sont des réalités, je ne sais pas pourquoi les gens les cachent. Il ne faut pas qu'on aille parler de l'université en l'air. Non, voilà ces problèmes-là. Aujourd'hui, pour ces problèmes, qu'est-ce que nous avons demandé? En réhabilitant, nous disons merci au chef de l'État, nous disons merci au ministre des tutelles, en réhabilitant les hommes, il s'est dégagé quelques auditoires, quelques salles hein, dans la cave. Nous disons, en attendant l'ouverture officielle, mais qu'on permette aux gens d'étudier, qu'on mette seulement des cuves. Comme si on aurait pris des terres parce qu'on a récupéré presque 44 locaux. Merci à l'ingénieur, merci au chef de l'État qui a initié, merci au comité de gestion. Alors, mais on ne peut pas avoir une solution comme celle-là et ne pas l'appliquer. Voilà un peu ce que je peux dire. La Pucune continue. Et parce que vous parlez de conditions de vie, nous avons un accord, nous avons signé à Bibois avec le gouvernement. Cet accord tarde, traîne à être appliqué.
Oui. C'est pourquoi de temps en temps vous appelez à la grève
Nous avons trouvé que, oui, la grève c'est une possibilité, mais le dialogue en est aussi une autre. Uh-huh. Oui, je crois que les syndicats, oui, c'est un syndicat de combat, mais le combat vient là où il n'y a pas de dialogue. Mais si on peut échanger. Comme l'accord de Bibois se résume à l'octroi de crédits véhicules aux professeurs, comme premier point, on en a eu seulement 105. Sur les 3500 attendus. Je crois que le ministre nous a dit qu'il y a un lot qui arrive. je crois que ça va se faire. Alors, nous avons dit, il faut mécaniser les nouveaux docteurs. Ça tarde. Nous avons dit qu'il faut payer la prime de recherche pour qu'on remplace les syllabus que vous connaissez. Interdit des forces. Interdit, je crois que, je ne sais même pas les termes, d'une manière atroce et avec force et même sanction. Mais à la place, on a remplacé quoi? Nous sommes dans ces studios. Je les détruis et je ne propose rien. Suis-je responsable? Je parle de la prime de recherche. Nous avons parlé du salaire, enfin, qu'il fallait augmenter. Et il fallait augmenter en janvier. Je ne veux pas donner les proportions ici. Nous sommes à mai. Et par force de la pucune, parce que ça, on ne peut pas le dire, c'est la pucune, alors elle seule, qui a fait une marche en toge au bâtiment, au budget, au bâtiment intelligent. Et les ministres de tutelle, les ministres d'État au budget sont venus et ils nous ont proposé des solutions pour avril. Mais avril vient de passer sans solution. Alors, mais maintenant, après toutes nos forces dans la bataille, nous avons obtenu qu'on nous donne la moitié des bibois en avril. Mais comme ils n'ont pas fait ça, aujourd'hui nous sommes derrière ce que nous appelons paye complémentaire. Et cette paie complémentaire est déjà lancée, mais il y a blocage à la direction de la paie. Où on ne veut pas faire les listings. Bon, si demain ou après-demain, ces listings ne sont pas là, mais Loubo prendra son équipe, on assiégera les directions. Vous pouvez imaginer que le premier ministre ordonne que le ministre du budget, des finances, tout ça, que le ministre du budget signe jusqu'à nos pays. Qu'un service bloque. Mais tout comme moi.
Professeur, merci d'être venu dans nos studios des Radio Capi. Est-ce que vous avez un dernier mot en 30 secondes?
Moi, je crois que le dernier mot, c'est d'abord vous remercier. Et remercier la Radio Capi, que parfois je considère comme une voix des 100 voix. Je remercie aussi tous les collègues de la PUCIN qui me suivent. Je remercie les comités de gestion de l'UNIKIN, nos étudiants, et je pense que la lutte est longue, mais avec assez de courage, nous allons nous en sortir.
Merci. Merci, professeur David Loubo Yambele, professeur à l'Université de Kinshasa et président de l'Association des professeurs de l'Université de Kinshasa, à Pukin en sigle. Merci, chers auditeurs, d'avoir été nombreux à suivre cette émission. Charlie Louyeye est à la mise en onde, présentation et coordination, Kéline Kouté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.